Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, je rappelle, Évangile de Luc, chapitre 10, et j'aimerais simplement lire quelques versets, puis après, on passera, on va dérouler un petit peu ce passage, en lisant les versets directement avec le commentaire qui suit. Verset premier, simplement. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà, c'est un chapitre qui est un petit peu particulier. Vous le reconnaîtrez puisque on va essayer de décoder parce qu'il y a plusieurs figures dans ce passage. Et en quelque sorte, c'est tout simplement une interpellation par rapport à l'évangile qui est prêché. Différents cas de situations, et particulièrement d'individus, de faire la différence, le distinguo, entre ouvrir son cœur ou fermer son cœur au message qui est entendu. Vous avez remarqué avec moi, il nous est dit qu'il a, Jésus a désigné, en plus des 12, hein, qui étaient ses proches, il en a désigné à un moment donné de son ministère, on peut dire ça comme ça, eh bien, 70, qui correspond un petit peu aux 70, vous savez, les anciens dans le peuple d'Israël, hein, et qui faisaient que bien, c'était des gens qui avaient une responsabilité, on peut dire ça comme ça. Donc, il en a suscité 70 et il les envoyait, il les a fait partir, eh bien, là où ils devaient se précéder pour prêcher l'évangile. Alors, on va justement faire un peu cette analyse de quatre cas de figure qui nous est présenté à la proposition du salut. Alors, on sait très bien que le salut est encore prêché 2000 ans et plus après. Et il y a toujours naturellement, eh bien, ce choix des hommes. Et on sait très bien que aussi, il y a beaucoup de non et peu de oui. Il y a beaucoup d'élus. Non, il y a beaucoup d'appelés. Et il y a peu d'élus. Voilà. Et ça ne vient pas d'une sélection qui pourrait être l'intention de Dieu, mais c'est avant tout, eh bien, le choix des hommes. Voilà. L'évangile est annoncé. Il est prêché ici, partout, dans le monde entier. Il recueille dans certains endroits un grand enthousiasme et une formidable adhésion de cœur. C'est ce que nous voyons dans certains pays aujourd'hui. Et puis, dans nos pays, soi-disant christianisé, les gens n'en veulent plus, ils ne veulent plus entendre, ça ne correspond plus finalement à ce qu'ils veulent. Alors, on n'est pas jugé sur des questions de société, mais toujours est-il qu'on va voir un petit peu à travers le détail de ce passage, et s'il nous a été consigné, et vous remarquerez que c'est un passage qui est unique, hein, celui-ci, hein. Et on le retrouve sous d'autres déclinaisons, peut-être d'autres formes, d'autres présentation, mais en tous les cas, dans ce qui nous est dit par Luc, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, proposition de l'évangile. Jésus a envoyé ses disciples. Alors, il y a eu d'abord un premier contingent, les 12, qui étaient préposés finalement à... Ils ne faisaient pas grand-chose. Ils étaient avec Jésus, ils l'accompagnaient, ils l'écoutaient, ils voyaient ce qu'il faisait. Voilà, mais en préparation certainement de l'apostolat qui allait venir plus tard. Il y en a 70, on verra par quel détail le Seigneur les a envoyés. Et avec quel équipement il les a envoyés, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Nous, si on avait cela aujourd'hui, dites donc, vous rendez compte, hein, guérir les malades, ressusciter les morts, etc., etc. Ça n'a duré qu'un temps, hein, mais en tous les cas, ils y ont été avec l'autorité du nom de Jésus. Faut bien le reconnaître. Alors, ensuite, il y a eu naturellement, la Pentecôte. Alors là, il y a eu encore une levée d'envoyés. Et puis cet envoi à ce moment-là à la Pentecôte, c'était pour tous. Finalement, c'était pas seulement une sélection de quelques-uns ou de quelques dizaines parmi les disciples de Jésus, mais finalement, nous sommes tous appelés encore aujourd'hui, à prolonger cette mission d'annoncer l'Évangile. Et nous voyons que Dieu va les équiper. Je l'ai dit il y a un instant, à un moment donné, il est bien mentionné, on va le relire d'ici quelques secondes. Cette bonne nouvelle est offerte non seulement par la prédication, mais elle est offerte avec la confirmation de la prédication. D'ailleurs, dans la fin de l'évangile de Luc, de Marc, il est bien dit qu'ils allèrent partout annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et Dieu confirmait ce message par des miracles, des signes, etc., des prodiges, enfin toutes sortes de choses. Et je n'ai pas lu naturellement tout ce qui est dit dans ce paragraphe, mais toujours est-il qu'il dira à ses disciples envoyés, il dira « mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et priez donc la moisson, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers ». Alors ça s'est renouvelé, et c'est toujours Dieu qui appelle. C'est pas les hommes qui se nomment, qui s'ordonnent, qui finalement, prennent une position, c'est Dieu qui appelle. Alors après, naturellement, il y a peut-être différents clivages où on peut se retrouver, dans telle ou telle condition de travail. Il y a des missionnaires, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, ici, là, partout, sur d'autres terrains, et adapté probablement, au contexte. Quand on voit Paul arriver à Athènes, Athènes, c'est autre chose que Corinthe. Et Corinthe, c'était encore autre chose que de prêcher, finalement, en Judée. Et puis, les choses, et probablement les premiers évangélistes qui sont arrivés dans nos pays, qui venaient certainement du côté de tout ça, du côté du sud de la France, la Méditerranée, puisque on sait où se situent les premières églises. Mais toujours est-il que après ça montait vers le nord, et puis il y avait toujours une adaptation, et Dieu s'est donné les ouvriers qui correspondent avec l'équipement. Mais l'équipement sera toujours le même, s'être rempli du Saint-Esprit, s'être rempli finalement de cette effusion de l'Esprit et de pouvoir annoncer l'Évangile. Et Dieu, surprenant, va choisir des hommes quelquefois qui sont tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer en tant que orateur. Et non, mais rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose, il faut bien le reconnaître. Alors, il va les envoyer, il va demander que l'on prie pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, et il précisera « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, des loups ». Ce qui veut dire une chose, c'est que la mission de servir Dieu, d'annoncer l'Évangile, de parler de Jésus-Christ, n'est certainement pas une condition rêvée, quoi qu'il en soit. Surtout dans le défrichage de pays, de régions et toutes sortes de choses où il y a une opposition terrible. L'opposition des hommes avec leur culture, leur religion, avec leur conception, avec leurs préjugés, avec leur occultisme. Et imaginez-vous, 2000 ans de christianisme, ça a été aussi 2000 ans de sang, de martyrs et toutes sortes de choses. Alors, il faut bien tenir compte de cela, et il dira, mais attendez, voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, vous allez voir ce que c'est. Et aujourd'hui, on le voit bien encore dans certains contextes où c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement périlleux d'y apporter le message. Voici donc Jésus. Alors il dira, mais ne portez pas de ceci, cela, allez-y, et marchez par la foi, tout simplement. Marchez par la foi. Et si vous allez dans une maison, vous dites tout de suite que la paix soit avec vous. Ça, c'est l'essentiel de l'Évangile. Si les hommes, quand ils sont là en campagne territoriale, ils font la guerre pour s'approprier telle ou telle chose, bien ou autre chose. Mais en tous les cas, le message de l'Évangile, c'est d'apporter la paix. Et c'est tout à fait conforme avec ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Alors, à un moment donné, c'est là où je veux souligner la première chose, donc la bonne nouvelle qui est offerte. Et quand je relis, par exemple, le verset 8 et 9, dans ce texte où je le lis plutôt, et il dira, Jésus dira à ceux qui l'envoient, « Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui sera présenté. » Alors attention, les régimes, et puis les traditions, etc., etc., c'est pas toujours évident. Mais il dira, « Mais guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » En substance, c'est un message très simple. C'est vrai. Bon, il y avait certainement autre chose dans le contenu, mais toujours est-il que la paix, la manifestation de la miséricorde et de la compassion de Dieu pour les souffrants, guérissez les malades, ça, c'est aussi ce qui accompagne la parole, et puis au cœur même, de dire, mais le royaume de Dieu, finalement, s'est approché de vous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Pour des gens qui n'ont jamais entendu parler, des gens qui sont bourrés d'idolâtrie, d'occultisme, de superstition, de toutes sortes de choses qui tiennent beaucoup plus à l'occultisme que, et puis à la légende. Ça, c'était véritablement ce qui était la mission première de ces chants. Hein. Et je vous le dis, finalement, dira-t-il, eh bien, sachez que vous êtes porteur d'un formidable message qui est en potentiel capable de transformer la vie des hommes et de transformer des nations et des peuples. Et je pense que les résultats, nous le voyons aujourd'hui, bien qu'il est très attristant de voir que dans nos pays qui se disent chrétiens, il n'y a plus grand-chose de chrétiens. Ça, c'est clair, on le sait, ça aussi. Alors ça, c'est la première, c'est l'introduction, on pourrait dire. Et là, nous allons voir justement quatre cas de figure qui nous est présenté, la réaction qu'il peut y avoir face à l'évangile qui est proposé. La deuxième chose, et là je vais le lire en entier, le verset 13 nous dit ceci, on va aller jusqu'au bout du paragraphe, et Jésus dira « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, hein, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Bon, ça c'est ce que Jésus, eh bien, finalement, nous laisse et nous parle d'une situation qui était un diagnostic, on pourrait dire, c'est ce que un mot que l'on emploie en médecine, de la maladie, du mal qui existe parmi les hommes. Et c'est pas ceux qui sont les plus proches qui sont les plus enthousiastes pour accueillir l'évangile, et c'est peut-être ceux qui sont les plus éloignés qui vont aller de découverte en découverte d'un monde nouveau, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et nous voyons que, eh bien, ce que Jésus nous dit en substance, si je veux le résumer, je dirais voir et ne pas croire. Et il y a là quelques propositions. Il y avait trois villes juives, trois villes d'Israël. Il y avait Chorazim. Il y avait également Bethsaïda et Capernaum, c'était des villes de Galilée, hein, qui se trouvaient dans le nord, mais c'était des villes juives, des villes où les juifs, eh bien, avaient, là, c'était leur patrie, c'était là où ils exerçaient finalement, eh bien, leur métier, ils avaient leur famille, et ils accomplissaient les rites de la religion, en quelque sorte, de leur religion à eux, hein, naturellement. Et on voit que dans le diagnostic que fait Jésus, ça vaut pour la nation juive en entier, hein, parce qu'il y a trois villes qui sont mises à part, enfin qui sont stigmatisées, mais toujours est-il que ça valait pour tout le reste d'Israël. Et nous voyons que elles sont marquées par un phénomène extraordinairement étonnant, c'est l'incrédulité. Et pourtant, ça faisait des siècles et des siècles que cette terre d'Israël, que cette terre de Galilée avait été pétrie finalement dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez étonnant. On pourrait peut-être le dire aujourd'hui, dans notre monde chrétien, la France chrétienne, l'Europe chrétienne, et on s'aperçoit que il n'y a jamais eu autant de désaffection de la foi, d'incrédulité, de scepticisme, de doute et de rejet. Alors, je vous l'ai dit l'autre jour, mais je voudrais quand même me répéter ce soir, je crois qu'il y a parmi les peuples de nos nations occidentales, je crois que c'est pas vraiment un rejet de Dieu, c'est plutôt un rejet de la religion. Et d'ailleurs, finalement, la grande difficulté et la confusion qui se faisait lorsque Jésus est venu, lui-même s'est présenté devant le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, quand vous regardez les discours de Jésus et quelquefois la manière dont il va parler, il mettra en cause beaucoup plus le temple et les synagogues, les pharisiens par exemple, que eh bien, cette foi en Dieu. Et aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Vous savez, les gens sont dans notre monde, et c'est ce que qu'on peut constater, c'est que les gens sont véritablement, on peut dire, vaccinés contre tout ce qui a caractère religieux, l'Église, avec toute sa hiérarchie, avec tout ce que l'on veut. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que c'est une constatation que l'on a, mais il faut faire attention que nous ne soyons pas des représentants de la même manière. Et que si l'Église doit porter eh bien, un message, c'est le message de Jésus, c'est le message de Jésus qui annonce la foi, la grâce, par le Saint-Esprit, et qui, véritablement, eh bien, touche profondément les cœurs. Parce que si on fait la même chose que les autres, il n'y aura pas tellement d'intérêt, sinon que on nous dira, vous êtes des baptistes, vous êtes des pentecôtistes, vous êtes des protestants, vous êtes ceci et cela, mais avant tout, je crois que ce que les hommes doivent reconnaître, c'est que nous sommes des chrétiens, et des chrétiens de l'esprit, des chrétiens de la parole, et dont l'autorité de notre foi, eh bien, c'est ce que Jésus nous a enseigné. D'ailleurs, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, et que vous leur apprenez maintenant à vivre avec ce que je vous ai dit, tout simplement. Et le problème de Chorazim, de Bethsaïda et puis de Capernaum, c'était l'incrédulité. On aurait pu s'attendre à un contraire. Quand un étudiant passe des années à étudier une discipline, ben on s'attend que le jour de l'examen et après réussite de l'examen, et puis il puisse exercer et qu'il devienne un spécialiste de ce qu'il a appris. On s'aperçoit que si on le met sur le plan de la vie spirituelle et de la foi, les Juifs n'avaient jamais été autant encensés ou enseignés dans tout cela. Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que c'est que celui-là, hein? Un usurpateur, et puis on l'a traité de tous les noms naturellement. Et ça, c'est le paradoxe. Et il y a en comparaison ces trois villes juives qui se paient le luxe de rejeter Jésus, de l'incrédulité. Voilà. Et par contre, Jésus dira, écoutez, il y en a, je cite deux villes en comparaison, Tyr et Sidon, qui sont des villes païennes. Et, vous l'avez lu avec moi, il est dit, mais si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, vous, les trois villes dont on a parlé, vous restez incrédules, mais si les miracles, les mêmes miracles qui avaient été faits au milieu de Tyr et de Sidon, il y aurait longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la sangle qui est une image de repentance. Ah oui, c'est terrible cela. Faut-il qu'il n'y ait que ces étrangers pour rendre gloire à Dieu, hein? C'est un autre texte de la Bible que je cite de mémoire, hein, naturellement. Donc, on s'aperçoit que c'est pas forcément les mieux informés, ceux qui connaissent, ceux qui sont plongés finalement dans les Écritures et qui les lisent et qui les lisent et qui les lisent, mais sans en retenir l'essence même et la force pour les vivre. C'est ce que nous voyons encore pour Israël aujourd'hui, hein. Mais c'est ce que nous voyons, nous pourrions dire, dans le monde, des religions chrétiennes qui sont autour de nous. C'est pas d'avoir une Bible. C'est pas de dire, eh bien voilà, moi je vais à l'église de ceci et cela, c'est de le vivre. Et de pouvoir en apporter les fruits. Parce que ces fruits, ils sont bons pour nous, mais ils sont bons aussi pour le témoignage. D'ailleurs, Jésus ne l'a pas oublié. Quand il dira, mais vous êtes la lumière du monde, et vous êtes le sel de la terre. Donc, il y a bien quand même une signification. Et c'était aussi des envoyés, ceux-là. Hein, pour que votre lumière brille devant les hommes. Que le sel dont vous êtes, eh bien, les détenteurs puisse donner faim et soif de vérité, de justice. C'est ça la question. Et on voit le paradoxe qu'il y a entre les premiers qui sont les Juifs et qui finalement sont les derniers, et que ces pauvres villes païennes où ils n'avaient pas grand-chose sinon une confusion probablement religieuse, hein, un mélange de toutes sortes, un syncrétisme de religion et qui nous ferait peut-être aujourd'hui lever les cheveux sur la tête en disant « mais c'est pas possible qu'ils croient des choses pareilles avec leurs idoles, avec toutes sortes de choses ». Oui, et bien finalement ce sont les dernières qui sont devenues les premières. Et dans la bouche de Jésus, hein, c'est lui qui le constate et qui le dit. Hein. Donc ouvrir ou fermer son cœur, on voit de quel côté, et finalement on voit de quel côté se penche la balance en quelque sorte. Hein. Parce que on l'a lu et je le relis. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc on voit une personne et sa parole. Et il n'y a pas de différence entre une personne et sa parole, à moins que ce soit un menteur et un hypocrite. Mais dans le cas de Jésus, c'est la vérité. Et il dira, c'est à ceux qui l'ont envoyé, parce que c'est toujours ceux qui sont envoyés. « Celui qui vous écoute. » Parce que vous annoncez ma parole, parce que vous parlez de moi, parce que vous parlez de mon royaume, parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, si véritablement vous avez des hommes et des femmes qui vous écoutent, fut-ils ou sont-ils des païens, alors à ce moment-là, en vous écoutant, c'est comme s'ils m'écoutaient moi-même. C'est pour ça que l'évangile se décline à la fois à travers un livre que nous pouvons lire, et puis aussi autrement, à travers un message que nous pouvons entendre. Voilà. Donc, lire, c'est les yeux, et puis entendre, et finalement, c'est les oreilles. Mais derrière tout ça, il y a un point commun, un dénominateur commun, c'est le cœur. Il se ferme ou il s'ouvre. Alors, Jésus le dit, « Celui qui vous rejette, me rejette. » C'est quelque chose. Et s'il vous rejette, mais il rejette celui qui m'a envoyé, moi, parce que je suis envoyé. Jésus dit, « Je suis envoyé par mon Père Céleste. » Donc, on voit un petit peu l'attitude de ce qui peut se passer dans le monde, et encore aujourd'hui, hein, quoi qu'il en soit. « Ne me parlez pas de Dieu, disent certains. » Ah oui, bon, on ne va pas parler parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais ils ne savent pas que derrière, ça va beaucoup plus loin qu'un personnage, un témoin que nous sommes ou un ambassadeur. modestes que nous sommes, lorsque nous parlons de l'Évangile et que nous voulons le bien des gens et nous annonçons la paix, s'ils ne le veulent pas, c'est pas nous qui rejetons et ne devons pas en prendre ombrage et finalement nous courroucer comme quelquefois certains témoins assez agressifs, certains chrétiens assez agressifs, l'ont pris pour une insulte personnelle ou un rejet personnel. Mais non, nous parlons, nous disons, maintenant c'est bien, c'est reçu, c'est formidable et c'est merveilleux, et nous en éprouvons une grande joie d'ailleurs. Hein. Mais par contre, quand ça fonctionne pas, ben faut pas le prendre pour nous personnellement, parce que c'est pas nous qui rejetons, c'est le Seigneur lui-même, en quelque sorte. Hein. Vous savez, ceux qui ont fait l'expérience des marchés bibliques, hein, pendant des un certain temps, je peux vous dire qu'on en a entendu toutes les couleurs. Hein. Ah oui, ça c'était, mais c'est très formateur ça. Hein. Il y en a plus aujourd'hui, mais peut-être que ça reviendra. Hein, alors croire, c'est obéir. Je crois ce que j'entends, et parce que je le crois maintenant, j'obéis. Et j'obéis à qui? J'obéis pas à un pasteur, j'obéis pas à quelqu'un qui me parle de Jésus, j'obéis au Seigneur. Et ça, c'est tout. Ça veut dire tout. De toute façon, tout est dit à travers cela. Ça, c'est le premier cas de figure qui nous est présenté. Il y en a un autre, c'est un petit peu plus loin, et on peut le lire aussi. Les 70 revinrent avec joie. Vous savez, on les a vus partir tout à l'heure. Hein. Enfin, tout à l'heure, ils sont partis je ne sais pas combien de jours. Hein. Mais toujours est-il qu'ils sont partis là où Jésus devait bien aller, et il a précédé Jésus. Alors, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits ou écrits dans les cieux, ou, dans d'autres termes si vous voulez, dans le livre de vie. » Ah oui, ce livre de vie hein, qu'on trouve à la Genèse et qu'on retrouve dans les dernières pages de l'Apocalypse. Voilà. Inscrit dans le livre de vie ou dans les cieux, tout simplement. Et vous avez remarqué avec moi, ils sont revenus, nos 70 disciples. Ils étaient contents, ils étaient pleins d'enthousiasme. Vous vous rendez compte? Les malades guéris, les démons chassés, des miracles, des prodiges, des signes, toutes sortes de choses. Ils sont précipités vers Jésus en disant, « Dis donc, tu nous as dit de faire ceci et cela. On l'a fait et ça marche. » Je précise un petit peu, c'est vrai, c'est un petit peu lapidaire ce que je suis en train de dire, mais c'est certainement, ils étaient tellement excités. Est-ce que nous, aujourd'hui, si par exemple, voilà, on avait là une salle pleine avec imposition des mains, guérison, etc., etc., on serait peut-être excités, nous aussi, hein? La rareté. Mais c'est ce qui s'est passé pour ces hommes. Hein. Jésus leur avait donné mandat. Il leur avait donné une responsabilité, non pas en leur nom, mais dans le nom de Jésus. En ton nom, nous avons fait ceci et cela, etc. Alors, ils sont revenus en disant avec comme un cri de triomphe, « Mais Seigneur, eh ben tu sais, même les démons, on leur a intimé finalement de quitter tous ces malheureux tourmentés, et ça fonctionne. » Et Jésus va leur dire ces paroles, « Mais je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Parce que ce que Jésus voulait leur montrer, qu'il était d'abord sauveur, libérateur, Seigneur, Dieu tout-puissant, auquel tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous connaissez la situation, hein, c'est un texte de la Bible dans l'évangile de Matthieu. Voilà. Et il voulait leur dire, mais attendez, moi je vous ai donné mandat de préparer des temps nouveaux, où la parole de Dieu se réalisera comme un fait tangible, visible et audible, à travers des choses extraordinaires. Parce que celui que vous avez dénoncé et chassé, mais je voudrais vous dire qu'il est vaincu. Que quelque part, eh bien, et ce n'est pas vous qui l'avez vaincu, c'est moi qui l'ai vaincu, parce que c'était déjà une prédiction, une prophétie, si vous voulez, par rapport à la victoire de la croix. Jésus mourant et prenant tout simplement la victoire sur le diable. Et Jésus va leur signifier, mais c'est pas vous qui avez pris la victoire. C'est moi qui ai pris la victoire et en mon nom, je vous ai donné maintenant l'autorité de prendre la victoire si vous continuez à appliquer ce que je vous ai dit. Tout simplement. Alors, je voyais Satan tomber du ciel, pour expliquer un petit peu que le miracle, eh bien, ça venait pas des hommes, mais ça venait du ciel, hein, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ou le contraire, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors là, il y a un danger. Parce que je pense qu'il faut rester dans la foi modeste et humble, dans la conduite que Dieu nous donne par le Saint-Esprit de faire ou de ne pas faire, la sagesse la plus élémentaire, et de pas aller, par exemple, là, je ne sais pas, là, vous savez, il y a des magasins où ils vendent des serpents, ils vendent des scorpions, ils vendent toutes sortes de petites bêtes, même à Saint-Nazaire, hein, j'ai vu, hein, ça m'arrive d'y passer, enfin, je ne vais pas vous donner le nom du magasin, mais toujours est-il, en disant, tiens, voilà, j'appelle un vendeur, et puis je mets ma main à l'intérieur, pour voir ce que ça fait. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui va là mettre trifouiller, je ne sais pas, dans là où il y aurait des animaux, et en disant, au nom de Jésus, je fais ça. Ben, vous risquez de vous retrouver... Non, c'est pas de la témérité qui nous est donnée. C'est de la sagesse et de l'intelligence et une conduite de l'esprit dans les circonstances que Dieu permettra. Et là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui a sa raison d'être. Hein. Mais l'enthousiasme débordant et victorieux des disciples va être tempéré par Jésus. D'ailleurs, à chaque fois, ils sont revenus avec joie, sont revenus avec beaucoup de joie, mais à un moment donné, Jésus va leur dire, mais attendez, j'ai quelque chose encore à vous dire. Parce que moi, je voudrais vous dire que le vrai sens de la gloire, c'est pas le miracle. La véritable manifestation de la gloire, parce que vous pensez que c'est glorieux d'aller chasser les démons et puis de guérir les malades, ressusciter les morts, c'est vrai, ça peut l'être. Mais moi, je veux vous dire que la véritable signification, le sens de la gloire, c'est ce que nous avons lu. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, de ce que vous aimez, le spectaculaire, le miraculeux, l'extraordinaire, le surnaturel et tout ce qui fait vibrer un peu la chair. Mais moi, je voudrais vous dire, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce qu'on se souvient que quand on a commencé le message, quand il a envoyé ses disciples, Jésus, les 70, annonçaient le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est pas seulement de guérir, c'est pas seulement de faire ceci et cela de spectaculaire. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous connaissez aussi cette citation. Le royaume de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que le plus grand de tous les miracles, c'est pas qu'un boiteux marche ou un aveugle voit ou un sourd entend, et tout ce que voudrait, le plus grand des miracles, c'est quand un homme se tourne vers le Seigneur et que son cœur et sa vie est transformé et que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est l'essentiel. On va pas chercher plus loin. Et il faut faire attention parce qu'il y a certains mouvements dans les milieux même pentecôtistes, des milieux de charismatiques, où on a été beaucoup plus loin qu'il ne fallait. C'est-à-dire que on est parti dans un certain délire uniquement du miracle pour le miracle, uniquement pour avoir des émotions, uniquement pour avoir des sensations, uniquement pour voir. Jésus le dira à un homme, un Galiléen, il dira, mais si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Mais ce qui est implorant, c'est pas de voir, c'est de croire pour être sauvé. C'est ça le principal. Et c'est ce que Jésus le rappelle naturellement à tous ces hommes. Parce que plus que tous les miracles réunis, spectaculaires, l'essentiel, c'est d'avoir le salut de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut vivre et voir sur la terre, mais ça n'aura qu'un temps. D'ailleurs, le temps des miracles, je ne veux pas dire qu'il est révolu, pas du tout. Hein. Mais pour l'instant, on ne vit pas par le miracle hein, dans nos églises hein, et dans notre pays, et quelles que soient les dénominations. Hein. On vit plutôt parce qu'on marche par la foi et on s'attache à la parole de Dieu. Et c'est quotidien, c'est tous les jours. Et on ne vit pas parce qu'on a des émotions, parce que finalement, bon, qu'il y ait quelquefois, eh bien, là, un souffle de l'esprit, on l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté, hein, souffle, souffle, d'accord. Mais le chemin est beaucoup plus difficile lorsque nous marchons sans voir que lorsque nous marchons, à l'aveugle, que lorsque nous marchons parce que nous voyons des choses qui nous stimulent. Et ça ne dure qu'un temps. Et quand on voit que celui qui était appelé le père des croyants, Abraham, ben moi je voudrais vous dire qu'Abraham, il n'a jamais vu un miracle. Et pourtant, il était appelé le père des croyants. Et c'est comme ça. Alors c'est pour ça que, bon, moi personnellement, on a connu, c'est vrai, on a connu des choses, on a vu des choses dans notre exercice du ministère. Mais je veux dire que, arrivé à un certain moment, que le Seigneur fasse ou qu'il ne fasse pas, le Seigneur reste toujours le Seigneur. Et ça, c'est une racine qui s'implante au fond de notre cœur. Voilà. le miracle, nous verrons à la fin, c'est lorsque Jésus apparaîtra. Ça, on pourra dire, hein. Et nous marcherons plus par la foi, nous marcherons par la vue à ce moment-là. Ouais, faut choisir entre la terre, où il y a des spectaculaires, ou le ciel, où c'est une autre dimension de salut. Ça, c'est le deuxième cas de figure. On va prendre le troisième, si vous voulez. Alors, vous le connaissez, le troisième, hein, c'est la parabole du bon samaritain. Voilà, c'est comme ça qu'elle décline, parce que quand vous regardez la chronologie du chapitre 10, vous pourrez y penser chez vous, si vous voulez le relire demain matin, vous verrez qu'il y a quelque chose de très, très, très chronologique, quelque chose qui s'emboîte les uns dans les autres. Jésus les appelle, ensuite, il fait quelques reproches à certaines villes qu'il ne croit pas, ils disent, mais voilà, ben, y en a d'autres qui étaient les premiers qui seront les derniers, et puis vice-versa. Et puis après, nous avons vu qu'ils sont revenus, là, tous ces envoyés, et Jésus va finalement les modérer un petit peu. Le troisième point, eh bien, c'est le sermon, c'est le bon samaritain, où il nous est montré d'une manière extraordinaire, à travers une parabole, là, c'est une parabole, que les Juifs savent, mais ils ne le font pas. Alors, l'illustration, c'est que on le voit, par exemple, un docteur de la loi se mit à éprouver Jésus, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, etc. Et il va raconter l'histoire un peu plus loin. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait s'est arrêté. Donc, les Juifs qui connaissent qu'ils soient lévites, qu'ils soient sacrificateurs, qu'ils soient rabbins, tout ce que vous voudrez, enfin bon, tout ce que nous connaissons un petit peu de la structure religieuse du judaïsme, en tous les cas, eh bien les Juifs qui savent, parce qu'il faut porter secours à son prochain, et pas regarder de la couleur de sa peau, de sa religion, ou s'il est un samaritain, ou s'il est un juif, ou s'il est ceci et cela, naturellement. Hein? Alors ils le savent, mais ils ne font pas. Par contre, Jésus va mettre en exergue, il va mettre en évidence, en relief, il va mettre le samaritain, en quelque sorte, tout simplement. Et il va dire un homme qui est un inconnu, finalement, de la foi juive, de toutes les traditions et de tous ces rudiments dont les autres sont complètement bourrés, là, dans leur tête et pas dans leur cœur, en tous les cas. Lui, c'est un samaritain, et il est bon. Tout simplement, c'est ce qu'il nous est dit, hein. Un samaritain qui voyageait, eh bien, ayant vu ce malheureux qui était sur le bord du chemin, lui, il va lui porter secours. Et non seulement il va lui porter secours, mais il va faire tout pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse être guéri, pour qu'il puisse être sauvé, quitte à donner de l'argent, et même, eh bien, donner encore plus pour qu'il puisse être pris en charge par l'hôtelier jusqu'à temps qu'il puisse se rétablir, tout simplement, hein. Ce païen, nous dit Jésus, c'est un ignorant, c'est un païen naturellement, et il agit avec son cœur. Les autres agissent avec leur théologie, avec leur nécessité, mais le cœur n'y est pas. D'ailleurs, Jésus le dira, hein, et il leur dira sous une autre forme. À un moment donné, quand il parlera de la tradition religieuse des Juifs, il dira, vous observez vos traditions et tous vos rites, vous en êtes des esclaves, mais vous n'apercevez pas que vous êtes esclaves de tout ça, que vous êtes donné toutes sortes de préceptes et de commandements qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis, tout ça, ce sont des paroles des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et on le voit d'une manière très claire, parce que le savoir, s'il n'est pas vécu, s'il n'est pas mis en pratique, est stérile, il ne produit rien du tout. Et ça, c'est une interpellation pour tous ceux qui, quelque part, eh bien, peuvent avoir quelques sentiments religieux et peut-être moraux, de savoir, mais ça sert à quoi tout ça, si véritablement c'est pas vécu? Le savoir est stérile. Et derrière le savoir, et en contrepartie, il y a la bonté du cœur. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup pour faire ce qui est bien. Ça doit être naturel et spontané, comme on l'a vu. Et on a justement cette conclusion à travers le verset 36, quand il nous est dit cette parole, parce que la question va être posée. Lequel de ces trois, je passe très vite l'histoire du bon samaritain, en supposant que vous connaissez bien l'histoire. Voilà. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et voilà la réponse. Celui qui est questionné, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ce que l'on entend n'est pas pour nous séduire dans nos oreilles ou notre entendement ou notre compréhension, notre intellect. Ce que nous entendons, c'est pour le vivre. Autrement, ça ne sert à rien. Va et toi fais de même, puisque tu as l'exemple. À l'exemple qui est donné à travers cette petite parabole qui est une vérité biblique, une vérité spirituelle et morale pour illustrer finalement ce que doit être l'homme dans cette affaire. C'est pas la peine d'être sacrificateur, c'est pas la peine d'être lévite, c'est pas la peine de se réclamer de Dieu et d'avoir tous les atours ou les attraits, enfin bon, tout ce qui constitue finalement l'équipement d'un bon religieux. Ça ne sert à rien tout ça, hein. Mais ce qui est important, c'est de le vivre, tout simplement. Puis je vais terminer par la dernière, quatrième petite proposition. Alors, Jésus les envoie, ils reviennent avec enthousiasme, mais Jésus va les temporiser un petit peu leur ardeur et leur enthousiasme. On voit ce que c'est de vivre le royaume de Dieu et la mise en pratique à travers le bon samaritain. C'est pas les titres et c'est pas les fonctions, c'est pas les attributions, c'est véritablement, eh bien, avoir un cœur qui est rempli de bonté, qui fait spontanément ce que tout homme doit pouvoir faire, finalement, eh bien là, en réaction. Et puis, la quatrième petite, c'est encore un petit paragraphe, et on va le lire en entier. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites par beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui lui sera point ôtée. » Voilà. Marthe et Marie, deux figures emblématiques que nous trouvons dans ce texte particulièrement. Et là, c'est pas une parabole, c'est une réalité. Jésus se trouve dans une maison amie et il y a naturellement, eh bien, ces deux femmes qui le reçoivent avec tous ses disciples qui sont derrière. Et elles ont toutes les deux un message à nous laisser ce soir. Parce que ce sont des bonnes juives, je suppose. Elles aiment Dieu, incontestablement. Chacune avec son caractère et son tempérament, ce qui est respectable. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se démarque dans tout cela. Marthe est une femme, quand elle voit Jésus et la réception qu'elle doit lui faire, alors elle s'active dans tous les sens. Elle se met à faire de la cuisine de manière fébrile et il faut qu'absolument les choses se fassent. Alors, mais ça ne lui donne pas un bon caractère ou ça fait ressortir peut-être un trait de caractère dans son impatience et peut-être sa précipitation. Voilà. Hein? Et elle est là dans cette situation et elle bougonne contre sa sœur en disant, bah, hein, on serait de la cuisine, ça irait quand même un peu mieux. Mais... c'est une fainéante, ma sœur, hein. Elle est là, tranquille, elle ne fait rien du tout. Et puis voilà que nous voyons qu'en contrepartie, que Marie va écouter tranquillement, et elle va vivre, apparemment, mais je pense, elle va vivre pleinement ce qu'elle entend. Elle est là, elle n'est pas là simplement là, devant Jésus, parce que c'est Jésus, et puis elle veut faire bien au milieu de tous ces hommes, parce qu'elle était la seule femme au milieu des hommes, hein. Et il y a une petite leçon à prendre aussi de ce côté-là. Et nous nous apercevons qu'elle est toute pénétrée de ce que Jésus est. Les paroles qui tombent des lèvres de Jésus, c'est quelque chose qui la réjouit. La pauvre Marthe n'a pas le sens de ces choses. Elle, pour elle, il faut faire la cuisine, il faut nourrir ses hommes, et ce sera sa manière à elle, finalement, de témoigner son affection et son amour pour Jésus. Bon, c'est une façon de faire aussi. Mais on voit la différence parce que c'est comme dans la question du bon samaritain, lequel de ces hommes, de ces trois hommes, a véritablement été au secours du bon samaritain. On peut remettre ça, c'est la même chose, hein, ça rebondit en quelque sorte. Hein. Alors, Marie écoute, hein, et elle est là dans, on pourrait dire, une forme d'admiration, voire même de contemplation, elle entend finalement, eh bien, Jésus parler. Et elle est là, et elle voit pas le temps passer, et c'est comme ça pour elle. Vous savez, Marthe, elle représente l'activisme de judaïsme, mais attendez, je voudrais y ajouter tout l'activisme du monde religieux. Vous avez remarqué tout ce que le monde religieux fait, d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des choses négatives, hein, parce que bon, quand on s'emploie pour aider à donner à manger ou des choses comme ça, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais je parle par rapport au salut. Toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes ou pas, il y a toute une nomenclature, il y a toute une liste de choses à faire pour hériter son salut, pour gagner son ciel, pour... On le sait tout ça, hein. C'est vrai. Et c'est vrai que nous, on passe pour des gens un petit peu... on est sauvés par la foi, hein. Alors ça les fait bondir, hein, parce que quelquefois ils se disent, mais ils sont complètement fous, hein, sauvés par la foi. Ben non, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Mais ce que nous faisons doit découler de notre foi avant tout, et la foi est avant tout le reste, et il y a naturellement des fruits. Mais pas le contraire, parce que finalement, si on produit des fruits, soi-disant des fruits des œuvres ou des bonnes œuvres, et que quelque part on n'a pas une foi pleine et entière en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ça ne sert à rien. Comprenez ce que je vous présente un peu les choses un petit peu de cette manière. Mais c'est ça, et le monde religieux fonctionne sur des bonnes œuvres, sur des mérites, sur des qualités, en essayant d'améliorer notre nature. Mais attendez, on l'a dit, on le redit encore ce soir, et Paul le dit dans Romains chapitre 7, c'est que nous avons une double nature. Et le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui peut nous délivrer de notre double nature, c'est Jésus, par le pardon de nos péchés et notre repentance. C'est pas possible autrement. Alors, l'activisme de Marthe, ça ressemble un petit peu au judaïsme, je l'ai cité parce qu'on est en train de parler du contexte, mais ça ressemble à toutes les religions humaines, toutes les religions, même chrétiennes, où là il faut faire, etc., et qui rend quelque part, qui donne au fond du cœur une certaine aigreur. Ouais, parce que plus on fait, moins on y arrive. Et ou alors, si on fait, c'est pour se glorifier d'avoir fait ce qu'on a fait. Et ça, c'est pas bon non plus, que personne ne se glorifie. C'est bien pour ça que hein, le texte est bien noté. Hein. C'est par la grâce, afin que personne ne se glorifie. Et le moyen de tendre la main vers Dieu, c'est la foi. Et c'est pas les bonnes œuvres en disant, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ben, ça ne marche pas, parce que quand on dit ça, ça veut dire, ben, Jésus est mort pour rien. C'est ça ce que ça veut dire. Donc l'activisme, alors nous avons d'un côté Marthe, et nous avons de l'autre côté Marie, qui est tranquille, qui est assise au pied de Jésus, et qui est là en train de prendre la parole de Dieu. Elle écoute, et elle reçoit, et Jésus dira ces paroles, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et qui ne servent pas à grand-chose, sinon peut-être nous faire plaisir parce que nous allons nous mettre à table d'ici quelques instants, je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais toujours est-il que, bon, voilà. Mais il dira à Marthe, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, la prééminence de l'attitude qui plaît à Dieu, eh bien, c'est que nous écoutions, je vous l'ai dit, ouvrir ou fermer son cœur. Hein, c'était un peu le thème qu'on a développé ce soir. Hein. Et ce qui est important, c'est que elle ne pouvait pas ouvrir son cœur, la pauvre Marthe, dans les bruits du fourneau, des casseroles et de tout ça. Elle ne pouvait pas ouvrir son cœur. Et c'est ce qui l'a fait qu'elle était irritée. Et peut-être jalouse aussi de sa sœur. Et par contre, Marie, elle était là. Et je voudrais vous faire une dernière remarque. Vous savez, dans la société d'hier, un peu moins aujourd'hui, mais quand même, on a toujours pensé que la femme devait être à la cuisine pour faire la popote, comme on dit, hein, qu'elle ne devait pas se mêler des affaires. Eh bien, Jésus va donner raison à Marie dans cette affaire. Alors, maintenant, messieurs qui êtes là ce soir, vous pouvez vous mettre au fourneau. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On a pensé que c'était que les hommes qui devaient... Bon, ils ne se sont pas toujours bien occupés du royaume de Dieu, les hommes. Hein. Alors, il faut qu'il y ait une équité. Je suis pas là en train de faire la politique d'aujourd'hui, vous comprenez. Hein. La parité, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que Jésus a quand même donné raison à Marie. Hein. Et qu'en donnant raison à Marie, il donne raison à tous les hommes et toutes les femmes qui ouvrent leur cœur et dont la foi naît à l'intérieur d'eux-mêmes, au plus profond, dans leur conscience et dans leur esprit, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Alors, on peut mettre tout ça dans ce même texte, vous voyez, il y a tout un déroulement, on a déroulé le tapis un peu ce soir, si vous voulez, à travers ce chapitre 15, c'est une perle, le chapitre 10, de Luc, pour nous présenter que Dieu envoie, il prêche la parole, et ensuite il prend un exemple d'incrédulité des villes juives, la foi des païens. Ensuite, nous en arrivons là, eh bien, ceux qui reviennent avec remplis d'enthousiasme en disant « Mais c'est formidable, c'est extraordinaire ce que tu nous as donné de faire. » Non, 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 non. Ce qui était le plus extraordinaire, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Après le Samaritain, bah, tu fais, va, et tu vivras. Et puis, il y a Marthe et Marie, là, les deux, pour nous dire qu'il y a tout un développement dans tout ça. Et je trouve que c'est un très, très beau texte pour moi. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce que l'on fait? C'est pas pour le fuir. C'est pas pour courir à toutes jambes en disant je ne veux pas. Mais quand on voit finalement, eh bien, la manière dont les choses sont enseignées par Jésus, moi je dis c'est une véritable richesse. Fort heureusement, depuis 2000 ans, où le message du royaume des cieux est annoncé, moi je crois que le grand livre s'est complété avec des millions et des millions de noms qui sont sauvés aujourd'hui. Et cela par la foi, dans la grâce de Dieu, parce que finalement les cœurs se sont ouverts. Alors on continue. Il y aura d'autres temps peut-être après nous. Il y aura peut-être encore des temps extraordinaires, des temps de réveil et de souffle de Dieu. C'est pas notre temps, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut continuer à prêcher l'évangile. Il faut continuer à porter le message, parce que qu'il y ait miracle ou pas, ben le Seigneur continue et son œuvre se fait. Parce que le plus grand des miracles, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, c'est pas ce qui se voit. C'est ce qui se vit à l'intérieur. On va remercier le Seigneur, si vous voulez, quelques instants. Et on va le bénir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que, à travers ce que tu nous as laissé, ce que nous avons entendu, eh bien, nous voulons tout simplement, Seigneur, te demander que nous soyons comme ces hommes, ces femmes, comme Seigneur Marie, par exemple, qui était assise aux pieds de Jésus, et elle a entendu sa parole, et elle s'est nourrie de sa parole. Et je crois que Marie, si c'est elle, plus tard, beaucoup plus tard, juste avant que Jésus meure, soit crucifié, c'est elle qui viendra casser le vase d'albâtre, le vase de parfum de grand prix, et qui le répandra sur les pieds de Jésus. Alors, merci Seigneur, parce qu'en effet, Père éternel, le parfum qui t'est agréable, c'est la foi. C'est ce parfum de grand prix, c'est notre foi, c'est notre confiance. Notre confiance qui nous amène, Seigneur, à croire et à obéir à Dieu, à ouvrir notre cœur, à te laisser agir, à faire de nous des hommes et des femmes transformés, qui portons des bons fruits, Seigneur. Non pas seulement des bonnes œuvres, mais des bons fruits à la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Alors merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Et nous comprenons peut-être ce soir un petit peu plus. Eh bien, Seigneur, ce qu'est le royaume de Dieu, sa progression, comme tu nous le montres à travers des paraboles, c'est un petit grain de s'élever peut-être, et qui est jeté en terre, et qui produit du fruit. Un grain en produit 30, un autre 50, un autre 100. Seigneur, merci parce que les temps ont passé, parce que les siècles se sont écoulés, et nous croyons que le christianisme est encore là aujourd'hui, que le message de Jésus-Christ, que le nom de Jésus est toujours là pour guérir, pour sauver, pour baptiser du Saint-Esprit, et avec la promesse que tu reviens bientôt. Merci Seigneur, tu bénis ta parole, au nom de Christ. Amen, amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.